Bienvenue dans Steady Podcast by ACD édition 2024, le rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs connectés en quête de conseils avisés. Je suis Anne Gaël et je suis ravie de vous accompagner encore aujourd'hui pour un nouvel épisode. On se retrouve cette année autour d'interviews et d'échanges animés pour explorer les sujets d'actualité sociale et juridique les plus pertinents pour vous guider dans la gestion efficace de votre entreprise. Pour ce deuxième podcast de l'année, nous plongeons directement dans la thématique de la nouvelle loi sur le partage de la valeur en entreprise. Une nouvelle loi entrée en vigueur en fin d'année dernière. C'est une évolution législative majeure qui promet de transformer les dispositifs économiques et sociaux du monde entrepreneurial. À mes côtés pour en discuter, j'accueille une nouvelle fois Sébastien Lagoutte, juriste en droit social et président du cabinet Concilium. Bonjour Sébastien, merci de nous avoir rejoints pour ce second podcast. Pour commencer, je propose que nous débutions par un focus sur cette nouvelle loi et sur ses obligations. Peux-tu dans un premier temps nous indiquer quel est l'objectif de ce nouveau texte pour les entreprises ?
Bonjour Agnès et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, bien sûr, nous allons aborder une nouvelle loi cruciale pour les entreprises. Il s'agit de la loi du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur en entreprise qui est entrée en vigueur exactement au 1er décembre 2023. Cette législation a introduit de nouvelles directives pour les entreprises, particulièrement en ce qui concerne la participation des employés aux résultats. Certaines entreprises ont déjà adopté cette pratique, tandis que celles qui ne l'ont pas encore fait pourraient être tenues de le faire à compter du 1er janvier 2025, sous certaines conditions. Pour les entreprises déjà assujetties à cette exigence, elles devront désormais engager des négociations avec leurs syndicats sur la manière de partager la valeur en cas de bénéfices exceptionnels.
Donc si je comprends bien, il existe deux modalités distinctes qui peuvent être appliquées en fonction de la mise en place préalable ou non d'un dispositif de partage au sein de l'entreprise. Pourrais-tu nous approfondir un peu plus ce sujet ?
Oui, bien sûr. Alors, certaines entreprises qui n'étaient pas obligées d'avoir un régime de participation devront en avoir un, selon la nouvelle loi, sous certaines conditions. Deux programmes similaires seront expérimentés pendant 5 ans après la publication de la loi. Le premier concerne les petites entreprises, comme celles ayant moins de 50 salariés. Le deuxième s'appliquera aux entreprises qui, en raison de leur forme sociale, ne déclarent aucun bénéfice net fiscal.
Et quelles sont les nouvelles obligations pour les employeurs qui entrent dans le cadre du premier programme, du coup avec moins de 50 salariés ?
Si une entreprise fait des bénéfices pendant 3 années d'affilée et qu'elle n'a pas déjà de programme en place lors de la 4e année, elle doit faire l'une des choses suivantes. Instaurer un programme de partage des bénéfices permettant aux employés de participer, que ce soit par le biais d'un accord avec un groupe professionnel agréé, de manière volontaire, ou désormais via un programme spécifique pour les petites entreprises, qui peut offrir des avantages moindres que le programme standard. Ou établir un programme d'intéressement par le biais d'un accord avec les employés, par décision unilatérale de l'employeur, ou en contribuant à un plan d'épargne salariale, comme par exemple un PEE, un PEI ou un PARCO. Enfin, dernière option, donner une prime de partage des profits directement aux employés.
Effectivement, le dispositif demeure quand même relativement souple pour l'employeur parce qu'il conserve une marge de manœuvre dans la prise de décision quant au programme à mettre en place.
C'est exactement ça. De plus, pour le moment, aucune sanction n'est prévue si l'employeur ne respecte pas cette obligation. Alors bon, voilà, cette obligation de mettre en place un programme de partage des bénéfices entrera en vigueur à partir du premier exercice comptable, se terminant après le 31 décembre 2024. Pour les entreprises dont l'année comptable correspond à l'année civile, cela commencera le 1er janvier 2025 et les bénéfices des exercices 2022, 2023 et 2024 seront pris en compte pour déterminer si l'employeur doit respecter cette obligation ou non.
Et pour les entreprises sans bénéfices net fiscal, comment ça se passe ?
Alors, pour ces entreprises qui n'ont pas de bénéfices net fiscal, comme les coopératives ou les associations, le dispositif s'applique si elles ont au moins 11 employés et font un profit d'au moins 1% de leurs revenus pendant 3 années d'affilée. Et si aucun programme de partage des bénéfices n'est en place, l'année suivante. Maintenant, il faut aussi que ce dispositif soit prévu par un accord entre les différents secteurs. Sinon, il ne sera pas appliqué.
Et quelles sont les options disponibles pour les entreprises qui, en raison de contraintes financières par exemple, ne peuvent pas instaurer de programme de partage de bénéfices ?
Alors, pour ces situations, quelques options sont disponibles si ces entreprises enregistrent des bénéfices pendant 3 ans. Elles peuvent mettre en place un programme d'intéressement par accord ou par décision de la direction, notamment si elles ont moins de 50 employés. Elles peuvent contribuer à un plan d'épargne salariale. Elles peuvent encore simplement accorder une prime de partage des bénéfices. Le choix entre ces options revient à l'entreprise Et actuellement, la loi ne fixe ni montant minimum ni sanction. Cependant, pour que cette obligation soit appliquée, il est nécessaire que les différents secteurs parviennent à un accord collectif qui devra ensuite être étendu à toutes les entreprises de la branche. Il est important de noter que cette démarche doit être mise en place à partir du 1er janvier 2025.
Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Sébastien. À présent, je suggère que nous abordions le sujet des entreprises qui, au contraire, étaient déjà dans l'obligation de participer.
Oui, bien sûr. Alors, comme on l'a mentionné précédemment, les entreprises qui sont déjà tenues de partager leurs bénéfices avec les employés doivent désormais avoir des discussions préalables avec les syndicats sur la manière de gérer une importante augmentation des bénéfices de l'entreprise, nous dit la loi. En résumé, il convient aux employeurs et aux syndicats d'ajouter une clause dans leurs accords existants sur le partage des bénéfices pour s'assurer que si des bénéfices augmentent de façon exceptionnelle, les salariés en bénéficieront aussi. Ces échanges sont consultatifs et ont pour objectif de comprendre les attentes des salariés. Néanmoins, la décision finale sur ce qui sera adopté appartient à l'entreprise qui doit agir de manière équitable et appropriée. Cette règle concerne les entreprises qui doivent donc déjà participer, partager aux bénéfices, c'est-à-dire celles qui ont plus de 50 salariés depuis 5 ans et qui ont au moins un syndicat représentatif.
Je vois donc, est-ce que toutes les entreprises sont dans l'obligation de négocier pour la mise en place de cette nouvelle règle?
Alors, oui et non, car certaines entreprises sont exemptées de l'obligation de négocier si elles ont déjà un accord qui prend compte les gros profits exceptionnels ou si leur accord de partage des profits est plus avantageux que celui imposé par la loi.
Pour en revenir à l'obligation de consultation avec les syndicats, quels sont les points clés à aborder?
Alors, l'échange doit se concentrer sur deux points principaux. Les partenaires sociaux doivent définir objectivement une forte augmentation des bénéfices et décider de la manière de les partager avec les employés. Et la loi offre une flexibilité aux négociateurs en fournissant des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité ou bien encore des événements externes. Une fois qu'ils ont défini ce qu'est pour eux une grosse augmentation des bénéfices, les partenaires sociaux devront alors s'accorder sur la façon de partager ces bénéfices exceptionnels avec les employés.
Et une fois qu'ils sont mis d'accord sur les bases de l'augmentation, quelles sont les options pour définir les critères de partage de la valeur?
Selon la loi, les partenaires sociaux ont deux choix. Ils peuvent convenir à l'avance par accord de la manière de partager les bénéfices exceptionnels. Ils peuvent opter pour un supplément de participation ou un supplément d'intéressement si un accord de ce type est déjà en place. Ils ont la liberté de fixer le montant du supplément ou d'établir les règles de calcul. Ils peuvent décider d'entamer de nouvelles discussions lorsqu'un bénéfice exceptionnel est constaté. À ce moment-là, ils déterminent la manière de partager ces bénéfices. Ils ont la possibilité de créer un nouveau programme d'intéressement s'il n'existe pas encore, d'ajouter un supplément à la participation ou à l'intéressement, de contribuer à un plan d'épargne salariale ou simplement d'accorder une prime de partage de la valeur. Cependant, il est important de souligner que cette négociation est une obligation, mais le choix des modalités reste complètement ouvert. Cette règle prend effet tout de suite pour les entreprises qui sont légalement obligées d'avoir un programme de participation lorsqu'elles négocient un nouvel accord. Pour celles qui ont déjà un accord, elles ont jusqu'au 30 juin 2024 pour entamer des discussions sur les nouvelles conditions relatives aux bénéfices.
Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation exhaustive. Effectivement, cette loi a entraîné plusieurs changements et des nouvelles obligations, on vient de le voir. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Si ce sujet suscite votre intérêt, vous pouvez d'ores et déjà explorer tous les types de dispositifs de partage de la valeur et leurs nouvelles dispositions sur le site en lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Steady Podcast.